Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes vendredi, le 9 juin, et je suis pas sûr que ça a l'air de l'été aujourd'hui. Je trouvais que ça avait l'air un peu... le fond de l'air un peu frais. Mais j'étais habitué à la semaine passée, quand on est arrivé ici, là, en short, puis en chandail, en manche courte et tout et tout. Je suis avec Francine Forget, qui, étonnamment, n'a pas encore dit un mot.
Non, mais en fait, vous m'avez muselé même avant d'entrer en onde.
Comment
alors,
ça?
Là, j'ai la permission, alors
oui,
j'y vais.
Officiellement.
Bonjour Yvan.
Oui, allez-y.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et sur la température...
Mathieu, je t'ai pas entendu. Je t'ai vu parler, j'ai pas entendu.
Non, non, j'ai parlé, mais je voulais pas interrompre Francine.
Ah!
Oui, oui parce que je parlais.
Ben voilà,
alors,
j'ai été bien élevé, moi.
Ben c'est ça,
parce
c'est pour ça,
parce qu'interrompre Francine,
le fond,
c'est pas une chose.
Non, il ne faut pas faire ça. J'allais vous dire sur la température, c'est nos étés, ils sont bâtis ainsi. Probablement parce que de temps en temps, on a besoin d'un petit peu plus de fraîcheur.
Oui.
Mais non, c'était quand même pas si mal par rapport au smog qu'on a eu et tout ça. Moi, j'ai marché puis on sentait que l'air était de plus grande qualité.
Oui. On a vraiment eu toutes sortes de choses cette semaine.
Oui.
Fait. Et justement, cette semaine... Bonjour Mathieu, excuse-moi.
Non, oui, ben, bonjour tout le monde.
Alors, Mathieu est là pour essayer de mettre un peu de discipline là-dedans. Le mot important ici, c'est essayer.
Ah, je pense, oui.
Vous pensiez quoi?
Deux, mais c'est pas grave.
D'accord. Donc, Francine, qu'est-ce qui a retenu votre attention à vous cette semaine?
Michel Côté.
Oui.
Je sais que hier, en fait, on en a beaucoup parlé ce matin dans les médias, parce que hier, c'était la chapelle ardente
oui.
au Monument national, et c'était peut-être la première fois, non pas peut-être, mais la première fois que la famille s'exprimait par le biais du fils, Maxime Leflaguet. Mais au-delà de ça, je vous dirais que depuis le décès de Michel Côté, survenu il y a quelques jours, à 72 ans, hein, il est mort d'un cancer de la moelle osseuse. Depuis ce temps, je trouve qu'on a bien fait les choses pour vraiment nous faire mesurer l'ampleur de cet homme. Et quand je dis ça, c'est qu'à tous les réseaux, on a passé de ces films qui ont été populaires. On en a parlé aussi en retransmettant certaines entrevues qu'il a données. Hier aussi, dans Le Devoir, on avait une très belle chronique sur Michel Côté. Et aussi, je dois souligner le blog d'Hélène Faradi sur Radio-Canada, puisqu'elle a parlé de certains films qui ont moins été populaires, mais dans lesquels, pour autant, il avait des performances extraordinaires.
Comme Tes belles
jambes. Dans Au clair de la lune d'André Forcier, quand il faisait François l'Albinos. Ou encore un film qui a été populaire, réalisé par Jean-Marc Vallée, mais pas autant que Crazy, qui nous a fait oublier ce film, c'est Liste noire, quand il fait le juge. Savard.
Mm-hmm.
Il y a aussi Le dernier tunnel d'Éric Canuel, où il partageait la vedette avec un autre grand, n'est-ce pas?
Jean Lapointe.
Jean Lapointe. Alors voilà, tous ces témoignages-là, je trouvais que c'était tellement une belle façon. Des fois, on est un peu malhabile là-dedans, on raconte la vie, des commentaires qui sont à peu près toujours les mêmes sur les médias sociaux. Mais cette fois, je trouve qu'on a très bien fait les choses.
Mm-hmm.
Alors, merci à tous ceux qui ont fait cet hommage de nous avoir permis de mesurer la grandeur de cet homme.
Oui, ça dépeint bien hein, la diversité qu'il était capable de transmettre.
Oui.
Moi, je pense à Tes belles jambes, où il a passé son... Le film sur un fauteuil roulant avec Marie... c'est Marie Tifo, me semble? Non, pas Marie.
C'est possible, je ne me rappelle plus qui partageait la vedette avec lui.
Alors, puis il est capable de faire brou, puis il est capable de faire ça, puis il est capable de faire... C'est vraiment...
Et sans mépris, hein, on l'a beaucoup souligné,
oui, oui.
Parce que c'était un grand acteur, il aurait pu lever le nez sur la comédie, hein, que souvent on dit que c'est un genre plus facile, ce qui est faux selon les artistes qui la pratiquent.
Mm-hmm.
Mais voilà, c'était, c'est ça, c'était bien, c'était
Il y avait
très bien.
bien Angèle Tifo et Angèle Coutu, pardon,
Angèle Coutu, Angèle
et
Coutu,
Marie Tifo
et
dans
Marie
le
Tifo
film.
Dans Tes belles Jeanne.
Voilà.
Merci Mathieu.
Merci.
Et vous, Yvan?
Ben moi, ce que je, il y a plusieurs choses que j'aurais retenues, mais ce qui m'a, ce que je garde particulièrement, c'est la Coupe Mémorial que les Remparts de Québec ont gagnée dimanche dernier, et ils ont gagné de brillante façon.
Oh là là, blanchissage, hein?
5, oui, mais c'est pas 1 à 0, là, c'est 5 à 0. Et le personnage de Patrick Roy, qui est en arrière de tout ça, là, avec sa barbe de papa et tout ça. Puis moi, je suis de la génération qui l'a vu gagner ses Coupes Stanley, faire ses folies, etc. Je suis très curieux de la prochaine étape.
J'espère qu'il y en aura une pour lui.
Oui. Oui, oui. Mais je trouve que d'avoir redonné et en grande quantité aux jeunes en faisant des kilomètres en autobus pour une superstar comme lui.
Exactement.
C'est quelque chose de à la fois étonnant puis à la fois motivant, je trouve.
Mais
que...
c'est qu'on connaît pas vraiment ces gens-là, hein?
Non, 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 effectivement. À l'émission d'aujourd'hui.
À l'émission d'aujourd'hui, ben d'abord notre historien là, qui va prononcer le mot « lac à l'épaule
oui. ».
Est-ce que c'est pour nous expliquer l'utilisation qu'on en fait ou si c'est pour revenir sur un événement important, le lac à l'épaule de notre premier ministre Jean Lesage à l'époque, ça se passe en 1962, qui a conduit à la nationalisation de l'électricité. Il y a un point d'interrogation. On verra avec Marcel.
À voir, suspense.
Oui, du côté de la technologie, je vais vous parler beaucoup de formation aujourd'hui et des compétences essentielles qu'on devrait acquérir finalement dans ce domaine, principalement sur l'intelligence artificielle pour arriver à peut-être mieux maîtriser, mieux comprendre les dangers et les opportunités. Au-delà des limites, on va recevoir un collègue.
Oui.
Un collègue de la radio, il s'appelle Julien Tremblay, il est pas mal plus jeune que nous, il fait d'autres genres d'émissions, il travaille à Bécomo, à CHLC 97.1, mm-hmm. Il est atteint de paralysie cérébrale et cette différence ne l'a pas empêché d'atteindre son but. Et vous, de votre côté, vous allez recevoir Carole Froment. Mais avant, je voulais me permettre de ne pas vous laisser la parole et de souligner... une collaboratrice dont on parle peu ici, c'est Monique Kerouac. Et quand on présente l'émission, souvent, on oublie de parler de cette chronique régulière qui nous vient de l'Estrie
oui.
Et qui est toujours extrêmement intéressante. Alors, je voulais le faire aujourd'hui. Ah. C'est toujours une surprise, mais elle est fidèle au poste.
Et sûrement, Monique écoute présentement.
Mais j'espère. Sinon,
puis,
je vais recommencer. Là.
Puis être en train de rougir, probablement.
Probablement.
Elle me disait qu'elle passe la semaine à récolter tous les...
Je la crois.
Tous ces petits événements dans l'Estrie qui nous fait une belle chronique le vendredi.
Oui.
Oui, du côté du Centre d'intégration à la vie active avec Carole Froment, on va parler de choses vraiment disparates, mais vraiment intéressantes. Elle va nous parler de pratiques libres de basketball et de rugby en fauteuil roulant. L'événement Découvreur et un atelier de percussion, tout ça pour des personnes qui vivent avec un handicap. Alors, commençons cette émission, mon cher Mathieu.
Est-ce qu'on parle encore de pacte? On s'est juste utilisé. Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos endroits, ce qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des basses, ce qui résonne dans mon tout, mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin, alors qu'on me voit souffrir. Je rêve, je m'envole. Dans la nuit, on me laisse vivre l'ennui. Que la raison emprisonne. Tour de moi réside dans ces fois. Que d'espoir je rentre chez moi. Et dans la nuit, on s'ennuie. Et dans la nuit, on s'ennuie.
sous la tension. T'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson. Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris l'appel et puis après. Crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. L'ennui des jeunes adultes, passer la nuit seul à deux. Mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer. Assez, two glasses for the moonshine. Sunglasses for the moonshine. Les grands classiques, on est sous le charme. And baby, that's all I need.
Cœur de pirate et qui est accompagné de Loud. Et sachez aussi, je ne sais pas si vous allez le dire,
allez-y,
mais qu'elle sera sur la scène Belle ce dimanche, le 11 juin, donc à 21h.
Non, ce que j'allais dire, c'est que je me suis fait chicaner la semaine dernière parce que j'ai dit que je ne me souviens plus de telle chanteuse. C'est Maud Audet.
Maud Audet.
Qui est la conjointe de... Alors, Loud, c'est le conjoint de Catherine Saint-Laurent.
Voilà.
Qui jouait Noémie... que Catherine Saint-Laurent jouait le rôle de Noémie Saint-Hilaire dans District 31.
Oui. Voilà. Alors,
voilà. C'est égal.
Alors, maintenant, on a rétabli les faits. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Yvan. Les nouvelles.
Je peux aller me promener.
Les nouvelles, oui, vous pouvez disposer. Les nouvelles, évidemment que les feux retiennent encore l'attention dans le Journal de Montréal avec beaucoup d'articles de leurs collègues, beaucoup d'articles des collègues du Journal de Québec ont fait un dossier important. On nous rappelle qu'il y a plus de 120 feux qui sont encore actifs, les principaux incendies qui sont hors de contrôle, le Bel-sur-Quévillon, Chappais, au sud de Chappais et près de Mistissini. Alors vraiment, là, c'est loin d'être fini, cette chose. Il y a aussi des articles plus « human interest », comme on dit dans le milieu journalistique. Et c'est un bel article qui est signé Nicolas Saint-Pierre, effectivement, du Journal de Québec, qui relate l'histoire d'un jeune homme, finalement, dont le chalet et les souvenirs ont été rasés par le feu. L'incendie qui s'est déclaré le 1er juin en ce qui le concerne, ça a rapidement progressé vers son chalet. Cet homme s'appelle Jean-Claude Paquet, qui est situé un peu plus au nord de Notre-Dame-de-Lorette. Et le samedi après-midi, il a réalisé qu'en recevant des photos, finalement, son chalet, le mal
plus.
Était fait. Ce chalet était dans la famille depuis plus de 30 ans. Et l'homme, il l'avait racheté à des proches il y a un an. Et dans ce chalet était, je dirais, rassemblé un lot de souvenirs familiaux, justement. De nombreux souvenirs, des Noëls en famille, des photos. Et je vais toujours me rappeler que quand j'étais adolescent, je finissais l'école le vendredi après-midi et je montais en VTT pour la chasse ou pour aller rejoindre mon oncle et ma tante. Et évidemment, il y a plein de nostalgie dans cet article. C'est très beau, je trouve, de nous rapporter cela sans... Je dirais, il n'y a pas de c'est émotif, mais quand même, il y a une certaine objectivité, je dirais. Mais ça montre l'ampleur de ces dégâts, parce qu'on parle toujours de ça en termes de chiffres ou encore en termes de dégâts, mais on parle de la superficie en hectares. C'est sûr que c'est des nouvelles importantes,
oui.
Mais de voir ce que ça veut dire pour certaines personnes, je trouve ça très bien que le journal le fasse à ce moment-ci. Du côté du Devoir, on parle aussi des feux de forêt. On dit qu'il y a une adaptation obligée. C'est un des titres en manchette. Mais moi, je vais m'arrêter sur un autre titre dans le Devoir. C'est pourquoi le smog des feux du Québec est-il rendu à New York?
Oui.
Sarah Champagne, nous dit, nous explique que le nuage contaminant fait du Canada le visage de la crise climatique dans tous les grands médias américains. D'ailleurs, on a lu des fois des affaires un peu fortes là, là-dessus.
Fox News aussi.
Nous traite
de haut pas mal.
Pas mal. Il est rare que la forêt boréale, Chibougamo ou encore de Manioténam, fasse parler d'eux jusqu'à New York et Philadelphie. Et pourtant, présentement, c'est le cas parce que les indices de qualité de l'air dans plusieurs villes américaines sont presque tous dans le rouge. Mais comment ça se fait que tous ces contaminants puissent parcourir des centaines de kilomètres? Et voilà, elle s'est entretenue avec Philippe-Lucas Piché, qui est professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM, et qui explique que, je dirais, des conditions réunies cette fois-ci pour que, justement, il y ait un transport de ces contaminants sur de larges distances. Et il dit, ben, il faut évidemment des feux importants comme source de base. Il dit, jeudi, il y avait encore 140 feux actifs sur le territoire québécois, dont 80 classés hors contrôle. Alors, c'est important. Et la deuxième condition, c'est qu'il y ait dans une dépression, une zone de pression faible au-dessus de la côte est de l'Amérique du Nord. Ça crée une circulation atmosphérique qu'il appelle anticyclonique. Et ce professeur de chimie rappelle aussi que la masse d'air va bouger dans un sens anti-horaire. C'est un petit peu compliqué, là. Il prend son souffle au-dessus du nord du Québec et le pousse, justement, dans ce circuit anti-horaire vers la partie nord-est des États-Unis. Alors, la Statue de la Liberté était dans le smog, là. On a pris une photo depuis le traversier de Staten Island le 7 juin. Il y a deux jours, et c'est pas facile de voir. On la voyait à peine. Je passe maintenant à un autre sujet. Belle nouvelle. J'espère que ça prendra vraiment un arrimage, que ça va être concret, que ça pourra s'appliquer. On parle de taurine, qui est un remède anti-âge. La prise de ce produit allonge la durée de vie des souris et améliore la santé des singes. C'est une étude publiée dans le très sérieux Science et dont parle Alexis Riopel dans un article du Devoir. Alors, c'est une substance naturelle qui est présente dans le corps des animaux et qui joue un rôle dans le vieillissement des personnes. Les auteurs de l'étude ont observé que la concentration dans le sang diminue avec l'âge, c'est chez plusieurs espèces, dont l'humain. Et ils ont constaté que la prise de suppléments de taurine prolonge la durée de vie en santé de la souris et du singe. Ils appellent maintenant la tenue d'un grand essai clinique chez l'humain. Alors, il faut bien comprendre cependant, avant de trop se réjouir, n'est-ce pas, Yvan, en ce qui nous concerne?
Oui, on est sur le bord de la limite, nous autres. Hein?
Ben, c'est ça. Mais on ne peut pas faire marche arrière. C'est écrit noir sur blanc dans l'article. Et finalement, cette taurine appuie sur la pédale du frein de vieillissement. Donc, on peut comme stopper la patente.
Vous savez que de la taurine, là, ça se trouve aussi dans des boissons énergisantes.
Ah oui, on en a plusieurs.
Je les nommerai
plusieurs
pas.
Produits.
Fait que mettez pas ça dans vos céréales quand même, là. C'est comme...
Ben moi, j'attendrais.
C'est un peu exagéré.
Science, c'est une revue très sérieuse. Mais d'ailleurs, ce matin, on a commencé à dire que c'était peut-être pas si extraordinaire que ça, cette affaire-là. Alors, bon, attendons avant de trop se réjouir. Mais il y a quand même un pas. Moi, je trouve ça pas inintéressant.
Moi, j'ai entendu que la taurine, on trouvait ça dans les viandes et dans les poissons, et peu dans les végétaux. Et pourtant, les végétariens vivent plus longtemps que les carnivores.
Oui, mais c'est ça. À un moment donné, il faut vraiment faire un amalgame de toutes sortes d'affaires pour arriver à des conclusions qu'on pourrait dire enthousiasmantes. Maintenant, du côté de la presse plus, dernière nouvelle, j'y passe rapidement, mais je trouve que c'est, il faut quand même le signaler, M. Trump qui fait des siennes.
Ah,
alors, cette fois,
ça.
Il est accusé de crimes fédéraux. Alors, c'est relatif aux documents classifiés saisis à Mar-a-Lago. C'est Richard Etu qui en parle dans un écran de la presse plus ce matin. Alors, il devra livrer un autre combat judiciaire sans précédent aux États-Unis. tout en tentant de poursuivre sa campagne pour retourner à la présidence de ce pays divisé et déboussolé dans ses actions. Alors, il y a l'affaire Stormy Daniels, il y a l'assaut du Capitole, il y a l'élection de 2020 en Géorgie, on en a moins parlé, mais il avait essayé de mettre
résultats.
La pression pas mal. Et il y a aussi des problèmes, je dirais, financiers, hein? À New York, il a été condamné à 1,6 million de dollars pour fraude financière et fiscale. Alors voilà, disons que M. Trump, il a de l'ouvrage, hein? Il a du pain sur la planche.
Une belle retraite. Hein?
Belle retraite en perspective, mais lui, il n'est pas rendu là, la retraite.
Et on se tourne vers Monique Kirouac, qui a reçu un bel éloge de la part de Francine tantôt.
Ben oui, j'ai tout entendu. Je ne rougis pas, mais je suis assez émue. Merci beaucoup, Francine.
Non, mais ça vient de mon fond, comme dirait une certaine Madame Bénézra, qu'on n'entend pas assez, à mon avis.
Oui, c'est vrai. On l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, encore une fois. Ben écoutez, je vous parle d'abord de formation. Vous le savez, pour pallier la pénurie de psychologues et de professionnels en santé mentale dans le réseau public de la santé, Québec a dévoilé toute une série de mesures pour optimiser la formation de ses futurs intervenants en santé mentale. Alors, semble-t-il que l'annonce a été reçue plutôt timidement à l'Université de Sherbrooke. Alors, pour Philippe Lompré, qui est directeur du département de psychologie de cette université, c'est un premier pas qui est fait vers l'amélioration, bien sûr, de la formation et de l'offre de services en santé mentale, mais c'est un pas insuffisant. Il faut savoir que la psychologie est un des programmes les moins financés dans les programmes universitaires, en tout cas à l'Université de Sherbrooke, et ce professeur spécialisé en psychologie du travail à l'université regrette que les recommandations du rapport de Mme David certaines recommandations aient été écartées, notamment concernant le financement récurrent. Pour bonifier la formation, accepter plus d'étudiants au doctorat dans les programmes, ça ne peut se faire sans embauche de professeurs, donc argent récurrent. Également, les recommandations n'incluent pas les conditions de travail et d'encadrement des patients du secteur public, c'est névralgique. On sait que les suivis sont plutôt courts et que ces personnes affligées de certains problèmes ont besoin de plus d'encadrement que de 8 à 12 visites. Je vous parle maintenant d'environnement. Alors, plusieurs municipalités régionales de Comté, MRC de l'Estrie, travaillent sur un plan pour protéger les milieux humides, à l'instar de Sherbrooke, qui a adopté son nouveau plan nature ce mardi, qui prévoit la conservation de 45 % du territoire en milieu naturel et humide. On sait que la province demande au moins 30 % de protection de ses territoires. Alors, une protection de l'environnement qui va de pair avec aussi la densification des territoires. Pour rappel, les municipalités du Québec ont l'obligation de présenter au gouvernement un plan pour protéger les milieux naturels et humides. Dans la MRC de l'Estrie, ce sont près de 9 % du territoire qui sont des milieux humides. On ne peut et on ne veut pas en perdre. C'est important pour la faune, la flore, pour l'eau potable, d'où l'importance de protéger ces milieux.
Tout à fait.
Compte en commun Thierry Lhermitte, Mitsou et Gaston Lepage, chers animateurs.
Ce sont trois artistes, il y a deux chanteurs, je ne sais pas.
Non, il n'y a pas de chanteur dans ça, là. Il y a une chanteuse.
Oui,
alors, ils
vrai,
font
Mitsou.
Partie de la distribution d'un important tournage, semble-t-il, qui se déroule en ce moment, dans la région de l'Estrie, voyons donc. Alors, pour le moment, on en sait peu sur ce tournage qui s'est déroulé, entre autres, à Stansted, dans le courant des derniers jours, au club de golf Dufferin Heights. Mm-hmm. Le film est produit par le studio Iceworks, ça doit être Animation, de Magog. Radio-Canada Estrie a tenté de rejoindre le propriétaire de cette entreprise, Sylvain Viau, mais sans succès. Mais ce monsieur agit également en tant que scénariste, réalisateur et comédien dans le long métrage. Parmi les figurants, semble-t-il qu'il y en a quelques-uns, René Dubreuil, citoyen cherbourquois, ben, il nous révèle que le film met en scène une famille qui est propriétaire d'un terrain de golf, qui reçoit des offres pour l'achat de ce même terrain par un millionnaire. Et bien sûr, il y aura de nombreux comédiens qui participeront. On ne les nomme pas pour l'instant. Il y aura un peu d'animation et toujours selon M. Dubreuil, alors écoutez bien, il s'agit d'un film muet qui se situerait entre du Charlie Chaplin et l'inspecteur Gadget. C'est donc à suivre.
Disons que là, c'est assez large.
C'est assez large, on pourrait pas, on oserait dire n'importe quoi. Bon, je termine en vous parlant de tourisme, bien sûr. Alors, les cantons de l'Est reviennent dans les régions chouchous pour les projets de vacances des Québécois. Cette année, la région estrienne effectue une belle remontée, passant du 6e au 3e rang du palmarès à l'égalité avec Charlevoix. Ce qui ressort des résultats du 14e sondage annuel de CAA Québec sur les intentions de voyage estivaux des Québécois. Alors, les cantons de l'Est et Charlevoix ont obtenu 14% des réponses favorables des Québécois, vacanciers bien sûr. Le sondage nous apprend aussi que 57% des Québécois ont choisi de demeurer au Québec pour leurs vacances, ce qui est un peu moins élevé que l'année dernière, qui était de 65%. Et terminons en disant que les Québécois sont aussi plus nombreux à planifier un voyage en Europe, soit 9% par rapport à 5% à la même période l'an dernier. Alors, en attendant de vous parler de prochains événements dans l'Estrie, ben, je vous souhaite une belle semaine.
Juste un instant, vous n'êtes pas allé voir un spectacle, vous, hier?
Oui, je suis allée voir Daniel Lavoie.
Et en deux secondes?
Oh, c'était formidable. Un homme généreux qui nous a charmés au piano, debout, avec une certaine timidité, deux choristes extraordinaires et des musiciens vraiment fabuleux.
D'accord.
Il nous a charmés.
Et on doit vous laisser.
Oui.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Bye. Du côté du droit. C'est un article de la presse canadienne qui dit que au Canada, le tourisme estival est affecté par les incendies de forêt. Alors, on venait de passer la pandémie, on pensait que ça allait être une année fantastique pour le tourisme. Monique vient de parler justement des gens qui planifient pour aller en Europe. Mais là, pour le Canada, il y a des endroits fantastiques au Canada, mais il va falloir faire attention aux feux de forêt. Et du côté du soleil, si ma page peut se rafraîchir, merci. Vous avez parlé, Francine, des gens qui ont perdu un chalet ou une maison. On dit dans le soleil qu'un an plus tard, des sinistrés de la baie, il y a eu un glissement de terrain à la baie il y a un an, des sinistrés reviennent sur le glissement de terrain. Eux avaient été chanceux d'avoir été déplacés avant le glissement. Ils se trouvent heureux d'être en vie dans un nouvel endroit pour vivre. Alors, c'est deux regards sur ces facettes-là. On prend un petit arrêt et on revient. Francine va parler avec Julien Tremblay de Radio.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
La chanson 27 de Caroline Savoie, qui sera elle aussi ce soir à 17h au Silo Brasseur de Montréal, donc coin Sainte-Catherine et Saint-Urbain.
Mais merci Mathieu. Alors Yvan, bien c'est le moment de notre segment Au-delà des limites.
Oui,
ce
un
matin,
segment qu'on aime toujours.
On aime toujours ça. Ce matin, on accueille Julien Tremblay. Julien Tremblay qui est animateur de radio.
Oh.
À Baie-Comeau, oui, c'est ça, c'est
miroir.
Un collègue, CHSC 97.1. Il n'anime pas tout à fait le même genre d'émission. On va avoir sûrement le temps de lui en parler. Et Julien est atteint de paralysie cérébrale. Et cette différence, parce que lui, il parle de différence, ne l'a pas empêché d'atteindre son but. Alors, bonjour, Julien.
Bonjour, Madame Forget, ça va bien?
Oui, ça va bien. Julien, dites-moi avant que, juste brièvement, est-ce que les feux vous affectent d'une manière ou d'une autre à Baie-Comeau?
Ben, les feux, ça, je pourrais pas vous répondre. J'ai pas suivi ben la situation là, au courant des dernières heures.
Oui, mais il n'y a pas de smog ou des choses comme ça, là, de conséquences plus graves, non?
Non.
OK.
Non, pas à ce niveau-là, mais si je le saurais, je vous le dirais.
Ouais, j'imagine que vous n'allez pas nous le cacher. Non, on voulait simplement vous le demander parce qu'on ne sait plus trop quel bord ça prend. Là, quand c'est rendu à New York, là, ça se peut que Baie-Comeau aussi soit touché. Alors, d'emblée, je vous ai dit que j'ai dit à nos auditeurs que vous aviez de la paralysie cérébrale. C'est de naissance, c'est ça, Julien?
Exactement.
Alors, dites-moi, parlez-en un peu plus de cette, je vous dirais, de vos premiers pas dans la vie, de la réadaptation qui s'en est suivie.
En fait, selon mes parents, je suis né à 25 semaines de grossesse et pour vous donner une ordre d'idée, je pesais 2 livres à la naissance, ce qui fait en sorte que je suis un grand prématuré et j'ai été très malade. Selon mes parents, heureusement que je m'en rappelle plus nécessairement, j'ai eu quand même des complications, comme par exemple, j'ai été sous respirateur pendant plusieurs semaines parce que mes poumons n'étaient pas assez développés. Aussi, j'ai été hospitalisé au total de 5 mois après ma naissance, entre autres parce que j'avais eu besoin d'oxygène. Puis, c'est des séquelles neurologiques qui sont causées par ma grande prématurité. Et les gens peuvent penser que c'est une maladie, mais c'est plutôt un état qui fait que je suis comme ça. Et j'ai la paralysie, c'est surtout du côté droit de mon corps, mais un peu aussi du côté gauche. Et j'ai de la difficulté, bon, par exemple, à effectuer des tâches qui peuvent nécessiter la coordination de mes deux mains. Ma démarche est aussi un peu particulière. J'ai des problèmes de concentration et d'attention, mais malgré tout, c'est sûr que je peux faire le travail qui m'est demandé avec un peu plus de temps. Et au final, j'ai appris à m'organiser et j'ai également beaucoup de soutien de la part de mes collègues et également de mon patron. Mais pour ce qui est aussi de la réadaptation en tant que telle. La réadaptation, je faisais ça au centre de réadaptation de l'émergent à Baie-Comeau. C'est des rendez-vous une fois par semaine jusqu'au début de mon secondaire. Et le but dans tout ça, c'était de travailler tout ce qui était physiothérapie et ergothérapie. La physiothérapie, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est plus travailler ma mobilité, mon équilibre, la marche. Sinon, pour l'ergothérapie, c'est plus la dextérité fine, l'écriture ou encore, par exemple, attacher un bouton. Puis quand j'y allais, j'avais l'impression que je n'allais pas là pour travailler. C'était plus sur forme de jeu.
La réadaptation, est-ce que vous en faites encore, ou en tout cas peut-être dans un modèle différent, ou si maintenant c'est derrière vous?
C'est derrière moi, pas mal aujourd'hui, la réadaptation.
Donc, vous avez arrêté pendant vos études secondaires, c'est ce que je comprends?
Oui, au début des études secondaires, là, ça a été pas mal moins régulier. Parce qu'après ça, c'était une fois par mois. Et là, je peux dire qu'aujourd'hui, là, j'en fais plus vraiment.
Et j'ai compris, lors d'une conversation qu'on a eue cette semaine, c'est que quand même, vous avez eu un parcours scolaire, je dirais, habituel, puisque vous avez fait votre secondaire, vous êtes allé aussi au cégep, à Baie-Comeau. Et quand votre désir de faire de la radio, à quel moment ça s'est arrivé et ça s'est manifesté comment?
Ça s'est manifesté comment? C'est que j'ai fait, au secondaire, j'ai fait deux stages de journée. Là, ça n'existait plus aujourd'hui. Parce que ça s'appelait Un choix pour l'avenir, et j'étais venu à la station CHLC, donc la radio des hits, voir comment ça se passait une journée type au niveau de la radio. J'ai aussi fait de la radio étudiante au cégep de Baie-Comeau pendant 3 sessions sur l'heure du midi, pendant mes études en sciences humaines. Et j'ai vraiment eu la piqûre à ce moment-là. Et c'était une émission de demande spéciale où les étudiants me demandaient ce qu'ils voulaient entendre sur l'heure du midi. Et aussi, j'avais un concept qui s'appelait le choix du DJ. Ça, pour expliquer aux auditeurs, c'est que j'invitais des professeurs à venir parler de qu'est-ce qu'ils faisaient au cégep de Baie-Comeau. Et à la fin, je leur demandais toujours c'était quoi la chanson qui les représentait. Et parfois, les réponses étaient quand même, pour vous dire, assez surprenantes. Alors aujourd'hui, il y a des professeurs du cégep que j'ai connus à cette période-là qui me suivent.
Ah, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez une question, Yvan?
Non.
Non, ça va, on écoute.
Oui, la piqûre de la radio, je connais ça un petit peu.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça s'est poursuivi, en fait, jusqu'à à votre décision d'aller étudier au Collège Radio-Télévision de Québec.
Exact.
Et à ce moment-là, comment vous avez été accueilli là-bas? Parce que j'imagine que des gens qui ont de la paralysie cérébrale, il ne doit pas en avoir tant que ça, qui vont étudier au Collège Radio-Télévision de Québec.
Non, il n'y en a pas. Je pense que je suis le seul, en fait, qui a de la paralysie cérébrale, qui est allé étudier là. Et pour répondre à votre question, je me suis senti bien accueilli tout de suite à ma place. Surtout que le CRTQ, c'est un enseignement qui est individualisé. Et j'ai eu beaucoup d'encouragement de la part de mes pères, puis je me suis senti tout de suite respecté. Il faut savoir aussi que c'est un programme qui dure en tout un an. Il y a des cours d'animation, que ce soit radio parlée ou musicale. Il y a aussi un cours de diction. Par exemple, comment apprendre à bien parler à un public, ou encore un cours d'œuvre musicale.
Et donc, vous avez fait votre parcours pendant un an, et ensuite, vous avez gradué, et là, vous avez décidé de revenir à Baie-Comeau.
Exactement, oui.
Oui, alors vous êtes quelqu'un de la région, puis vous restez là.
Oui.
Oui, et c'est là qu'on vous a offert un emploi, je m'excuse, à 97.1?
Exactement, oui, 97.1 à Baie-Comeau.
Et comment ça a commencé, là, vos activités comme animateur professionnel?
Comment ça a commencé? Ben, avec les collègues, il y a eu tout de suite une bonne entente. J'ai senti que je faisais partie de la gang. Puis en même temps, déjà pratiquement la première semaine, je me rappelle que j'avais commencé à animer les 5 semaines. C'est vraiment là que j'ai commencé. Je faisais une émission, là, ça n'existe plus. Là, ça s'appelait Station Service Weekend. Et à quelque part, j'ai parlé de différents sujets qui pouvaient intéresser les gens, comme bon, le culturel, l'insolite, etc. Même un peu de sport parfois. Un peu ce que je fais maintenant la fin de semaine avec le Beat du Week-end.
C'est le Beat du Week-end, le titre de votre émission, c'est ça?
La nouvelle émission que je fais la fin de semaine, mais l'ancienne émission, ça s'appelait Station Service.
OK. Mais c'est un peu le même format là, qui continue. Mon collègue, Yvan Deslauriers, a une question pour vous.
Oui, je veux en savoir plus sur le beat du week-end. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi? Est-ce qu'il y a beaucoup de musique, beaucoup d'entrevues?
C'est plus une émission de type musical. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est de 13h à 18h où je parle de sujets à caractère scientifique, culturel, comme par exemple, bon, les potins qui concernent nos artistes préférés. Un exemple de ça que je peux vous donner, il y a Shawn Mendes ainsi que Camila Cabello qui ont été vus à New York parce qu'ils s'étaient séparés en 2019. C'est des sujets à peu près comme ça que j'aborde. De l'insolite et parfois du sport. Et je fais pas que ça parce que je fais également des publicités. Je fais aussi la mise en onde des matchs de hockey du Drakkar, qui est une équipe de la LHJMQ avec moi.
Tout à fait, oui.
Alors, en fait, c'est un homme orchestre à la station de Bécomo. En terminant, j'aimerais ça que vous reveniez peut-être pour expliquer davantage à nos auditeurs sur deux phrases que vous avez prononcées lors de notre entretien cette semaine. La première, c'était de l'objectif, c'était un peu comme des marches d'escalier. Alors, il fallait qu'on en ait des petits pour arriver à réaliser son grand. Et le deuxième, c'est ce ne sont pas des différences qui nous empêchent d'aller loin.
Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est exactement ça. Parce que peu importe qui on est, qu'on ait une différence ou pas, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est de se fixer aussi des objectifs. Puis si ça ne fonctionne pas quelque part, il ne faut pas se décourager. Puis il faut surtout continuer à travailler, à bûcher pour atteindre qu'on veut atteindre, et ça, malgré les embûches, quelque part.
Merci, Julien, d'avoir partagé ce temps avec nous ce matin. Et on vous souhaite une très belle carrière à la radio. Merci. Et on comprend, on partage cette passion, puis on vous encourage à la développer. Merci beaucoup, Julien. Bonjour, Marcel Dugas, vous allez bien?
Très bien, vous-même.
Bien oui, certainement. Alors, j'ai compris que ce matin, on se faisait un petit lac à l'épaule.
On se fait un lac à l'épaule.
On se fait un lac à l'épaule. Alors là, j'imagine que vous allez bien préciser peut-être ce qu'est un lac à l'épaule. Et il y a aussi un contenu historique qui est rattaché à cette expression-là au Québec. Vous allez nous en parler.
Oui, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé assez récemment, que dans plusieurs milieux au Québec, le milieu communautaire, le développement des communautés, dans certaines entreprises, le terme « faire un lac à l'épaule » pour parler d'une grande réunion qui dure souvent plusieurs jours et se déroule hors des bureaux de l'organisation, c'est très répandu. Et ce terme-là réfère directement à un moment charnière de notre histoire, le Conseil des ministres extraordinaire du gouvernement de Jean Lesage, qui a mis la table à la nationalisation complète de l'électricité au Québec. Et moi, en tant qu'historien, je trouve ça beau de voir que tant de gens ont adopté ce terme-là, qui est vraiment à 100% local. Il ne s'organise des lacs à l'épaule nulle part ailleurs qu'au Québec. Mais juste entre vous et moi, Francine, je pense que beaucoup de gens qui en organisent et qui participent à des lacs à l'épaule ne savent pas d'où ça vient. Mais parlons-en.
La question me brûlait les lèvres.
Voilà, parlons-en de ce fameux lac à l'épaule. À partir de la fin du 19e siècle, l'hydroélectricité au Québec devient une source de richesse, mais de richesse pour les actionnaires des grandes compagnies canadiennes, anglaises et américaines qui se sont appropriées la ressource. Des entreprises comme la Shawinigan Water and Power, la Gatineau Power, la Southern Canada Power offrent un service médiocre et fixent des tarifs élevés pour fournir aux Québécoises et aux Québécois l'électricité produite sur ces rivières qui sont le patrimoine naturel de la province. Le gouvernement libéral d'Adélard Godbout avait fait un premier pas en 1944 avec la nationalisation de la Montreal Light, Heat and Power. Hydro-Québec était né, je vous en avais parlé à cette émission il y a quelques mois. sous le régime de Maurice Duplessis, entre 1944 et 1959, arrêt total des discussions sur la poursuite de la nationalisation. Mais l'idée va revenir à la surface après l'élection de Jean Lesage et de son équipe du tonnerre en 1960. En tant que ministre des Richesses naturelles et donc ministre d'Hydro-Québec, René Lévesque est celui qui va vraiment pousser pour que la nationalisation se fasse. Il s'était joint au Parti libéral, notamment parce qu'il avait été séduit par le discours d'affirmation des Canadiens français dans l'économie que portait Jean Lesage à l'élection de 1960, mais il n'était pas question de nationalisation à ce moment-là. Au ministère des Richesses naturelles, on a fait nos devoirs, on était relativement convaincus qu'on pourrait emprunter sur les marchés américains les centaines de millions de dollars requis pour compléter la transaction, parce qu'une nationalisation chez nous, ce n'est pas une prise de contrôle par le gouvernement et les actionnaires se retrouvent avec rien, on rachète les actions des différentes compagnies. Lévesque fait un grand discours en février 1962 où il dit clairement que le Québec doit nationaliser son électricité. Dès le lendemain, les grandes compagnies privées convoquent une conférence de presse pour répondre au ministre. On sent qu'il y a une certaine panique chez les hauts dirigeants de ces entreprises-là. Et le surlendemain, Lévesque commence à recevoir des appuis dans les pages éditoriales des journaux. Vincent Prince, éditorialiste à la presse, va faire ce résumé de la situation. Les compagnies privées d'électricité admettront qu'elles ont elles-mêmes un peu pratiqué le racisme en écartant à peu près systématiquement les Canadiens français des postes supérieurs de leurs entreprises. Comment, devant une telle politique d'arrogance et de ségrégation, ces compagnies peuvent-elles nous en vouloir de réclamer leur nationalisation? Il n'est que normal qu'un peuple se fatigue d'un tel colonialisme économique et qu'il se tourne vers son État quand il ne voit guère d'autres moyens d'atteindre des postes de commande. La lutte va donc s'engager entre Lévesque et les compagnies d'électricité, mais aussi au sein du cabinet Lesage, où l'idée était loin de faire l'unanimité.
Oui, c'est ça, il y avait des discussions viriles, comme on disait dans le temps.
Absolument, bien, le cabinet était entièrement masculin encore à ce moment-là, ou est-ce que c'était après? Non, c'était après l'arrivée de Claire Kirkland-Casgrain, qui avait été nommée ministre en 61, si je me rappelle. J'aurais dû vérifier l'information avant de vous dire ça, mais je suis pas mal certain.
Oh, la semaine prochaine, vous pouvez vous reprendre. Yvan, c'est ce qu'il fait quand il fait des commentaires un peu misogynes, ou on lui laisse une chance.
Ah, OK.
Alors, on vous donne la même chance, Marcel.
Je vous ferai un point d'information si jamais je me suis mélangé dans mes dates. Donc, au début du mois de septembre 1962, alors que les libéraux étaient toujours divisés sur la question, on va organiser une grande retraite ministérielle où, au lac à l'épaule, le voilà qui arrive finalement. Il est situé à 50 km au nord de Québec, dans le parc national de la Jacques-Cartier, qui n'existait pas encore à l'époque, on parlait du parc des Laurentides. Il y a un petit lac à l'épaule, mais c'est pas de celui-là qu'on parle. Il est la source de la rivière à l'épaule, dont le vrai lac à l'épaule est, si on veut, un renflement. Les Wendats de la région appelaient la rivière Wahonjakaronte, et les descendants des Européens ont commencé au 19e siècle à le désigner sous le nom de lac Épaule. On parlait de la rivière L'Épaule. C'est devenu le lac à l'épaule, même si le toponyme n'a été officialisé qu'en 1968. On y a d'abord installé un relais pour les gens qui faisaient la route de Québec au lac Saint-Jean. Puis en 1922, on construit un premier chalet en bois rond à l'extrémité sud du lac. Et ce camp-là va accueillir des visiteurs de marque dès 1943. Le président américain Franklin Delano Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill se sont réunis à Québec en août de cette année pour discuter stratégie. La Seconde Guerre mondiale faisait rage à ce moment-là. La conférence a duré une semaine et, question de se détendre un peu pendant les procédures, on les a amenés à la pêche au lac à l'épaule. Un nouveau chalet plus spacieux y est construit par une compagnie forestière en 1946. Et déjà à ce moment-là, les ministres du gouvernement du Québec avaient pris l'habitude de s'y réunir au point où le chalet sera surnommé le camp des ministres. C'est donc pas une surprise quand les libéraux de Lesage se retirent au lac à l'épaule le 4 septembre 1962, mais le secret qui entourait les discussions va soulever des questions. On avait bloqué la route qui menait au camp. La police disait avoir une quinzaine d'agents dispersés dans les bois environnants pour empêcher toute personne qui n'était pas autorisée à le faire d'approcher la bâtisse. Les journaux vont nous rapporter que Lévesque, Lesage et un ministre anglophone et ancien chef intérimaire du Parti libéral, George Marler, étaient restés au chalet plus tard que les autres. Ce qu'on a appris par la suite, c'est que le chef du parti était resté au lac avec les chefs des deux camps. Lévesque, on le sait, était pour, Marler était contre, les autres ministres se trouvaient quelque part entre les deux. La première journée de la réunion avait été surtout faite de discussions informelles. On sondait le terrain de part et d'autre. Les discussions en grand groupe ont vraiment débuté vers la fin de l'avant-midi de la deuxième journée et on a décrit les discussions ainsi. Il régnait un climat de surchauffe, de malaise, d'incertitude malheureuse. À la claustration depuis deux jours, le déjeuner trop lourd, déjeuner dans le sens de dîner, trop lourd, précédé d'alcool et accompagné de vin, les précautions que l'un et l'autre prenaient en vue d'une irruption possible du premier ministre, la sensation de la vérité frôlant le sort du gouvernement et des destinées individuelles des ministres, tout cet ensemble disparate se conjuguait pour alourdir cette minute qui, tout à l'heure, se transformerait en la minute de vérité. Finalement, il semble bien que c'est un autre ancien chef du parti et futur premier titulaire du ministère des Affaires culturelles, Georges-Émile Lapalme, celui qui a signé les lignes que je viens de vous énoncer, la citation d'il y a deux secondes, qui a tranché le débat en proposant d'aller immédiatement en élection et d'en faire une élection référendaire sur la nationalisation. Et tout le monde s'est rapidement rallié à cette idée. Il n'y a aucune information qui a filtré après le lac à l'épaule. Personne ne disait rien, on disait « appelez le premier ministre, c'est lui, c'est la seule personne qui est autorisée à vous en parler ». Et ce n'est que le 19 septembre qu'on a su officiellement ce qui s'était décidé à ce fameux lac à l'épaule. Le premier ministre annonce la dissolution du Parlement et la tenue de nouvelles élections pour le 14 novembre, donc même pas deux ans et demi après l'élection des libéraux. Le sage déclare « Le gouvernement a décidé de demander au peuple du Québec un mandat péremptoire pour unifier les réseaux d'électricité de la province. Une telle unification exige, à notre avis, la nationalisation de toute société commerciale dont la fin propre est de produire et de distribuer l'électricité. » Ce sera l'élection du fameux « maintenant ou jamais, maître chez nous ». L'Union nationale, qui était l'opposition à ce moment-là, est un peu prise. On propose une nationalisation des compagnies de l'Abitibi et de la Gaspésie et de soumettre la question de la nationalisation totale à un référendum à une date ultérieure. Il savait qu'il ne pouvait pas s'opposer complètement à l'idée qui était populaire dans la population. Ce sera finalement un triomphe pour le Parti libéral qui obtient 56 % des voix et lui qui n'avait que 8 députés de plus que l'Union nationale au Parlement avant cette élection référendaire sur la nationalisation, en a maintenant 32 de plus et on va officialiser cette nationalisation de l'électricité le 1er mai 1963. Et c'est comme ça, Francine, que l'expression « faire un lac à l'épaule » est née, tout particulièrement lors de cette réunion toute spéciale de septembre 1962.
Très intéressant qu'on nous rappelle ce pan important de notre histoire. Yvan, vous avez une question?
Non, c'est une information supplémentaire. On parlait de Claire Kirkland-Cassegrain tantôt. Elle a effectivement été élue, Marcel, le 14 décembre 1961.
Oui, en vous le disant, je me suis rappelé qu'effectivement, elle avait eu à s'identifier quand elle avait passé la barrière du parc, alors que plusieurs autres ministres étaient juste passés, on les avait reconnus immédiatement. Elle avait dû montrer patte blanche. On se demandait qu'est-ce qu'une femme allait faire là, probablement.
À cette époque et par ailleurs pendant plusieurs années.
C'est vrai.
Oui. Alors, merci beaucoup, Marcel, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Alors, de mon côté, je vous parle d'un tournoi de tennis qui a lieu présentement à Saint-Hyacinthe depuis hier, où l'élite du tennis en fauteuil roulant participe. C'est un tournoi reconnu par la Fédération internationale de tennis, donc c'est un gros tournoi. L'élite du tennis en fauteuil roulant y est. Ça se passe depuis hier, du 8 jusqu'au 11. Il y a plusieurs athlètes québécois qui vont y participer, dont Stéphane Daigneau, ainsi que les membres de l'équipe du Québec, Natalia Lanoucha, Yann Mathieu, Carl Desbiens, Jean-Paul Mello, qui malheureusement a été éliminé, Gabriel Cyr et Frédéric Bérubé-Perron. Ensuite, en plus des athlètes québécois et des joueurs et joueuses en provenance du reste du Canada, des États-Unis, du Japon, de l'Australie et du Costa Rica qui participeront à ce tournoi. On est rendu, Francine, au quart de finale et il y a 4 femmes et 4 hommes du Canada qui sont toujours en lice.
Ah, intéressant!
Le Japonais Takashi Sanada a remporté les grands honneurs l'an dernier en battant le Britanno-Colombien Barry Anderson en finale chez les hommes, alors que Natalia Lanusha s'était imposée dans le tableau féminin. Chose intéressante, durant la fin de semaine, il y aura également une activité d'initiation au tennis en fauteuil roulant le samedi 10 juin. L'activité se déroulera de 13h à 15h à la polyvalente Hyacinthe Delorme et s'effectuera sous la supervision de l'entraîneur du programme de haute performance. L'initiation est gratuite, mais les places sont limitées, alors soyez informés. Voilà pour cette courte paractualité. Dans la prochaine demi-heure, on va parler avec Francine d'intelligence artificielle.
Tiens, encore une fois.
Un nouveau sujet, ça?
Oui.
Ah bon?
Très nouveau.
Et avec Carole Froment, ça aussi, c'est à ne pas manquer, parce qu'elle va parler des activités à venir au Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, et il y en a parmi elles qui sont vraiment nouvelles. L'atelier de percussion en particulier, c'est quelque chose que j'ai bien hâte d'en entendre parler. Alors, dans quelques instants.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et Francine Forget va nous parler, de façon surprenante, de l'intelligence artificielle.
Mais c'est la première fois, alors ça m'émeut beaucoup. Écoutez...
Est-ce que c'est une reprise?
Non, ce n'est pas une reprise. Hey, vous êtes pas gêné, franchement, une reprise.
Ben, on se connaît davantage.
Il y a tellement de choses à dire, Yvan, que non, on n'a pas le temps pour les reprises.
Il va en avoir encore longtemps.
Mais j'ai quand même gardé une petite reprise pour vous faire plaisir.
Allez-y.
À la fin. Non, pas tout de suite.
D'accord.
Pas tout de suite. Écoutez, ça fait longtemps que je ne me suis pas appuyée sur, vous savez, le site de Conversation, en tout cas, on a traduit le maintenant la conversation en français. Là.
Pourquoi pas?
Mais mais à l'origine, le nom, c'était vraiment The Conversation, où on retrouve des articles scientifiques. Et il y en a un qui m'intéresse particulièrement, qui a été publié il y a un peu plus d'un mois sur l'intelligence artificielle, mais qui prônait le fait qu'il était très important d'éduquer la population à la programmation, à l'école et ailleurs. Et on nous explique pourquoi c'est si important. Parce que on a besoin de bases pour mieux maîtriser le monde de l'intelligence artificielle. Bon, on dit là-dedans que, évidemment, l'intelligence artificielle joue un rôle crucial dans diverses applications. Et de plus en plus, on va l'utiliser. Pourquoi? Parce que, bon, on le sait, ça génère des textes divers, ça peut permettre des analyses de données, etc., etc. Et pour exploiter le potentiel de ces modèles-là, il faut connaître un petit peu comment ça marche le code informatique. Alors, ce sont deux professeurs, un chargé de cours et un professeur de l'Université du Québec à Montréal qui ont produit cet article-là. Apprendre à programmer, évidemment, c'est pas évident, hein, parce que les modèles de langage courants, c'est pas toujours facile pour le commun des mortels. En fait, c'est de nous apprendre à être capable d'écrire en langage informatique.
Oui, c'est une autre langue.
C'est une autre langue et on connaît certains mots qui font référence à ce langage informatique, mais ça ne veut pas dire que pour autant, on sait concrètement ce que ça veut dire. Ils disent que avec ces intelligences artificielles, il faut qu'on ait suffisamment d'informations pour pouvoir programmer les choses qui vont pouvoir nous aider. Et l'exemple qui est donné là-dedans, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi-même, j'ai fait, parmi mes premières expériences avec ChatGPT, j'ai demandé qu'il m'organise un petit voyage d'une dizaine de jours. Ça a été une catastrophe, honnêtement. Mais pourquoi ça a été une catastrophe? Justement, parce que je n'avais pas la base pour qu'il puisse m'aider. Il est bien fin, le robot, là, mais il y a des limites.
Qu'est-ce que vous lui aviez demandé?
Bien, c'est pas juste ce qu'on a demandé, c'est aussi la manière de le demander. C'est l'ordre dans lequel on va présenter les choses. C'est les informations qu'on va entrer. C'est nos connaissances techniques, justement, du langage. Mm-hmm. Alors, moi, j'avais mis des choses bien, bien simples. Là. J'avais demandé mon itinéraire, etc. Mais c'est sûr que si j'avais eu la connaissance du langage, probablement que je serais arrivée à autre chose parce que eux, ils ont fait cette expérience-là et ils sont arrivés à un itinéraire détaillé de 10 jours très, très intéressant sur un voyage qui était projeté. Là, je sais pas si où, on le dit pas, mais c'était intéressant de voir qu'il était capable de produire ça. Aussi, ça permet justement, si on comprend mieux les modèles de langage, d'être moins vulnérable au fameux hacking, ces attaques sauvages informatiques dont on peut être victime. Ça va allumer encore plus, je dirais, notre vigilance par rapport à certaines informations qu'on ne doit jamais donner sur ces sites-là, et ou encore la manière dont on doit les donner, parce que justement, à cause d'une certaine façon de notre ignorance. Donc, la programmation pour tous, c'est aussi une solution pour favoriser la cybersécurité, pas seulement pour une meilleure utilisation des langages informatiques. Alors, au-delà du simple codage, pour se familiariser à justement cet apprentissage, peut-être qu'on n'est pas obligé là, d'aller suivre un doctorat, même pas un bac, même pas un DEC. Et c'est là qu'est mon petit rappel. Je vais vous donner trois lieux où vous pouvez aller faire des petites formations. Pourquoi pas pendant l'été? C'est gratuit.
Je vous interromps, là.
Oui.
Il y a à peu près 50% de la population au Québec qui est fonctionnellement illettrée.
Oui.
Est-ce que la programmation est accessible est vraiment accessible pour tous?
Je ne sais trop parce que j'oserais pas me prononcer parce que j'ai pas assez de connaissances, là, mais généralement, si on ne sait pas lire ou si on n'est pas vraiment fonctionnel sur ce plan-là,
okay,
c'est pas évident de faire un tas d'autres choses.
C'est bon. Donc, à la base, là, il faudrait avoir ça. Sinon, il faudrait que les applications soient plus flexibles pour permettre à tout le monde de pouvoir y participer.
J'entrerai pas dans le détail, mais il y a plusieurs années, quand on parlait de gens en informatique, un des critères qui faisait que, parce qu'il y avait beaucoup de demandes et les admissions étaient diminuées, la connaissance de la langue maternelle était quelque chose de très important. C'est notre système, hein, c'est la logique avec laquelle on va travailler, etc. Alors, comme le temps file, prenons le temps. Je voudrais vous parler de trois lieux que vous pouvez fréquenter cet été. Quand je dis des lieux, c'est des lieux virtuels. Il y en a un, justement, qui est un petit rappel parce qu'ils l'ont prolongé jusqu'au 8 août. Et je parle de la formation qui est offerte sur l'Université de Montréal et HEC. Alors, les trois dont je vous parle, c'est sous forme de... En français, on a traduit ça par les cours en ligne ouverts et massifs, là, les CLOM, mais le vrai terme qui est utilisé dans tous les milieux, c'est le MOOC, le fameux MOOC, qui est le Massive Open Online Course. Ah, mm-hmm. Oui, voilà. Alors, quand on dit MOOC, c'est gratuit, c'est des formations courtes. Alors, donc, ChatGPT 101 sur edulib.org. Alors, ça vient de chez nous, comme on dit. Alors, edulib, c'est edulib.org. Moi, je l'ai fait. C'est intéressant. C'est une trentaine d'heures. Alors, on fait ça à notre rythme, là. Hein? Oui. Ça nous tente une petite journée, peut-être de faire une activité qui est plus exigeante pendant nos vacances. Il fait plus ou moins beau. Voilà. Il y a aussi un autre... ça, c'est nouveau. Introduction à l'éthique de l'intelligence artificielle. Ça, c'est ouvert jusqu'au 15 décembre 2023. Sur la même plateforme, et celui-là est d'une vingtaine d'heures. Maintenant, deux autres qui nous viennent d'ailleurs, un qui a été développé par l'Université d'Helsinki sur les éléments de l'intelligence artificielle. Alors, c'est éléments au pluriel, évidemment, sans accent. On continue dans le même mot, donc éléments, SOFAI.fr, parce que c'est en français. Alors, on aborde des techniques et les répercussions que ça peut avoir sur la technologie comme telle. Et enfin, celui dont je vous parle, le dernier, il a été développé par le Conservatoire national des arts et métiers, c'est français, c'est FOAD.CN comme Nicole, AM comme Michel, .fr. Alors, c'est 5 à 6 séquences. Celui-là, je ne suis pas allée voir. Je trouve ça un petit peu spécial qu'on parle de 5 à 6 séquences. Généralement, c'est assez précis. Mais c'est les clés de compréhension de ces nouveaux mécanismes. C'est sur les clés de compréhension. Alors, donc, 3 lieux qu'on peut fréquenter à notre guise, à notre rythme, pour accroître nos connaissances et compétences dans ce domaine essentiel.
Merci beaucoup, Francine.
Qui va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Marionnettiste et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions, création, je contrôle tout le reste. Je contrôle tout le reste. Il arrive des fois qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse.
C'était Zao de Sagazan qui sera sur la scène Hydro-Québec mercredi prochain à 18h.
On note. Et je me tourne vers Carole Froment qui est coordonnatrice au développement philanthropique et aux communications au Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, qui va nous parler de plusieurs belles activités à venir dans les prochains jours, semaines et mois. Bonjour Carole.
Bonjour Yvan.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci vous.
Ça va bien, merci. Alors on commence par basketball et rugby en fauteuil roulant?
Oui, exactement. Comme on s'en est déjà parlé, le CIVA a plongé dans dans sa programmation d'été. Donc, on a plein de belles activités de plein air qui s'en viennent, mais on continue également à entretenir nos joueurs de basketball et de rugby, notamment avec une programmation en pratique libre, donc tout au long de l'été, du 27 juin au 15 août, chaque semaine, on a des créneaux de pratique libre dans ces deux disciplines. Donc, je vous en parle parce que c'est sûr que c'est une belle opportunité pour des gens qui aimeraient s'essayer, de venir nous rencontrer, de venir justement s'essayer, puis peut-être pourquoi pas s'inscrire ensuite à la session, à la rentrée de l'automne 2023.
Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers?
C'est sûr qu'on évalue toujours les capacités motrices de la personne, donc on vous invite à nous contacter, entrer en contact avec nous, puis nos coordonnateurs au sport pourront bien vérifier que c'est une activité qui est adaptée avec vous. Sinon, pas de prérequis particulier. On a aussi tout le matériel à disposition, donc évidemment, on a des fauteuils de pratique, que ce soit en basketball ou en rugby. Vous pouvez venir, puis on a de quoi pour vous accueillir.
Puis géographiquement, ça se passe à quel endroit?
Oui, le basketball se passe au gymnase de l'école Joseph Charbonneau, donc dans Villeray. C'est le mardi soir de 19h à 22h, donc un créneau de 3h. Puis pour le rugby, c'est plus proche de nous, c'est dans le sud-ouest, au centre récréatif Gadebois. Donc c'est le mardi soir également de 19h à 21h. Puis pour vous inscrire, c'est ça, vous pouvez nous contacter. Comme ça, nous, on pourra aviser l'équipe sur place que vous allez venir faire un essai ou nous rendre visite. C'est sûr que c'est des activités qui, au long de l'été, se font en autonomie. Donc, c'est pas des entraînements avec un coach sur place qui est là pour faire ça de façon rigoureuse. Les entraîneurs vont passer occasionnellement sur les activités. Mais sinon, c'est vraiment des pratiques qui sont libres, qui sont en autonomie pour que l'équipe ait du fun ensemble.
Bravo. Maintenant, on s'en va dans un domaine bien différent.
Oui.
L'événement Découvert, c'est comme ça qu'on prononce?
Oui, Découvert. C'est ça, comme je vous avais dit aussi dans nos précédentes discussions, on essaye vraiment de redynamiser le volet culturel. On a une agence ici qui est très, très motivée. Puis, pour cet été, elle... En parallèle de la programmation culturelle en plein air qu'elle redynamise, on lance en fait un événement qu'on appelle Découvert. Donc ça va être une journée dans un parc. En fait, c'est en bordure du canal de la Chine dans le sud-ouest. Donc c'est un emplacement qui est quand même très agréable.
Plutôt joli, oui.
Oui, c'est le parc Daisy Peterson Sweeney. Donc c'est le samedi 22 juillet de 11h à 15h. Puis l'objectif cet événement, c'est déjà d'attirer le grand public, donc les curieux qui vont passer par là, puis qui vont nous repérer pour faire des ateliers artistiques et sensoriels de sensibilisation à l'art adapté. Donc c'est-à-dire initier par exemple les gens à peindre avec les yeux bandés, à utiliser ce qu'on appelle une licorne, qui est un casque avec un bras au bout duquel on peut mettre un crayon. Donc pour les personnes qui n'ont pas de motricité au niveau des mains, ils peuvent peindre avec leur tête. Donc on voudrait comme rendre ça visible, puis montrer au grand public que c'est également possible de faire de l'art de cette manière-là. Ou encore des petits jeux comme peindre en duo, en simulant tout ce qui va être en juste spasmodique, puis le handicap en fait. Et donc il y aura aussi un marché des arts, qui sera présenté par certains de nos artistes du CIVAR, donc c'est les artistes de notre cours d'art avancé. Et puis, on fera aussi une création d'œuvres collectives, donc toutes les personnes qui nous rendront visite pourront contribuer comme à une murale, puis ce sera un événement artistique dans le parc.
Donc, le 22 juillet de 13h à 15h ou à 17h?
De 11h à 15h.
De 11h à 15h. Et Francine, évidemment, a une question là-dessus. Je la voyais
c'est
réagir.
C'est tellement intéressant, le projet artistique. On va sûrement y revenir, Mme Froment, mais j'avais une question, là. Je veux juste que ça soit bien clair dans ma tête. Je peux y aller et faire de l'art, moi?
Oui.
Oui, c'est ça. Oui. OK, donc, vous allez me sensibiliser de cette manière-là, soit en me bandant les yeux ou... c'est
exactement.
Ça?
Exactement.
Ah, voilà, ça. Voilà. Oui. Merci.
Et Francine, est-ce que vous avez une habileté dans les percussions? Est-ce que vous avez du rythme?
J'ai déjà... jouer je sais pas quoi dans un corps de majorette. Mais ça avait un lien avec ça.
Ah,
mais alors, c'était pas de la percussion.
Là, il y a peut-être quelque chose pour vous, peut-être. Là. On va en savoir plus. Allez, Carole, sur l'atelier de percussion.
Oui. Également une nouveauté, si vous avez un petit historique du SIVA, vous saurez qu'au SIVA, au cours des 60 dernières années, on a fait beaucoup d'activités, de la musique, du théâtre, plein de choses. Là, on n'en a plus, mais on a été invité sur une collaboration avec l'orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci, donc qui se situe dans Montréal-Nord, pour un atelier de percussion donc adapté aux personnes en situation de handicap physique. Je vous avoue que pour nous aussi, c'est quand même une première, puisqu'on ne l'a pas testé, on va le tester à cet événement-là. Mais c'est comme réservé, on va dire, aux membres du SIVA et également aux membres d'un autre organisme qui s'appelle Vision sur l'art Québec. Donc on sera deux organismes qui allons bénéficier de cet atelier de percussion. Évidemment, on vous en parle parce que vous pouvez nous contacter. Même si actuellement vous n'êtes pas membre au SIVA, vous ne bénéficiez pas de nos services, on sera très heureux de vous accueillir puis de vous intégrer au groupe. Il y a une trentaine de places et ce sera le jeudi 3 août 2023, donc de 18h30 à 20h30 en fin de journée dans le parc. On espère qu'il fera bon et ce sera dans Saint-Léonard au parc Giuseppe Garibaldi.
Wow! C'est une belle variété d'activités.
Oui.
Alors, on vous souhaite un au revoir un peu spécial, Carole, parce qu'on ne se reparle pas avant quelques temps.
Oui, exactement. Je file en congé maternité dans une semaine à compter d'aujourd'hui.
Ben, bravo. Et on va reparler à quelqu'un d'autre du SIVA la prochaine fois.
Oui, ce sera certainement ma directrice, Marine Gaillard, qui prendra le relais.
Merci beaucoup, puis ayez du bon temps dans ce qui s'en
vient. Ah oui,
merci
certainement.
Merci, un bel été.
Vous aussi.
Bravo.
Au revoir.
Allez, Francine, qu'est-ce qui va retenir votre attention dans les prochains jours?
Comme à l'habitude, j'ai trop de choses, alors donc je vais me limiter à trois sujets. Premièrement, les finissants de l'École nationale de cirque. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir les spectacles de ces finissants. C'est à la Tohu ou ça peut être aussi sous le chapiteau de l'École nationale de cirque, mais c'est tout dans le même coin, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est soit sur l'avenue du Cirque ou sur Jarry-Est, là, mais c'est dans ce grand complexe, ce parc circassien, je pourrais dire
oui,
ça
oui.
comme ça.
C'est un très beau
oui,
parc,
c'est hein? très beau. Alors, oui, il y a le spectacle des finissants, mais il y a le spectacle aussi des deuxièmes années et il y a une parade aussi des premières années. Alors, c'est vraiment intéressant d'aller voir ça. Évidemment, c'est pas gratuit. Ça se termine le 11 juin. Allez voir sur le site de l'École nationale de cirque. On en est dans les derniers jours.
Oui,
mais c'est beau de voir la relève. On est vraiment bon là-dedans au Québec.
Puis on est choyé aussi.
On est bon là-dedans. Et c'est tellement une belle école à tout point de vue.
Mm-hmm.
Alors, je vous invite à aller voir ça. Les billets, c'est entre 19 et 32 mais vous allez passer un très beau moment. Un autre événement important qui se tient maintenant depuis plusieurs années. Alors, cette semaine, on a beaucoup parlé de Sape, cet artiste qui
a fait
l'immense œuvre
oui,
au pied du Mont-Royal, les deux avant-bras
mm-hmm.
et les mains finalement qui se joignent. Là, c'est vraiment beau. Ça fait partie d'une série qui s'appelle Beyond the Walls.
Oui.
Je sais qu'il y en a qui ont dit, ben oui, mais il aurait pu appeler ça en français, puisque c'est lui-même un français, n'est-ce pas? Mais Beyond the Walls...
Ceci explique cela.
C'est ça, mais Beyond the Walls, c'est un projet qui est développé dans plusieurs pays. Alors, je ne veux pas l'excuser, mais généralement, n'est-ce pas, l'anglais, c'est souvent qu'on utilise quand on voyage. Mais il y aurait pu.
Il y aurait pu.
Il y a raison. Alors donc, il y a cette œuvre éphémère, puis quand je dis éphémère, dépêchez-vous, parce que c'est un maximum de 2 semaines, puis il y a déjà pas mal de jours de passé. Alors, si vous voulez admirer ça, il va faire beau en fin de semaine. Il faut monter, par exemple. Hein? On ne pas ça au pied. Moi, je suis passé, là, puis...
On ne voit pas.
Pas comme moi, là. Allez jusqu'en haut. Mais faut aller jusqu'en haut.
Les photos sur les médias sociaux, c'est vraiment surprenant.
Intéressant. Et c'est toujours avec des... tous ces produits sont éco-responsables. Mais il n'y a pas que ça à Mural. Mural, là, c'est un phénomène maintenant important. Ça se tient du 8 jusqu'au 18 juin. Il y a toutes sortes d'événements et la plupart sont gratuits. C'est sûr qu'il y a une scène où il y a des spectacles, entre autres, il y aura du reggae jamaïcain et il faut acheter des billets. Donc, vous googlez Festival Mural puis vous allez arriver à ça. Mais il y a aussi des spectacles pour enfants. Il y a aussi une bataille. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une œuvre qui est créée et chacun, à tour de rôle, chaque artiste qui participe, il met son fion, comme on dit, il apporte quelque chose.
Okay, il rajoute un morceau,
c'est ça. Il y a toutes sortes d'événements. C'est vraiment très bien. C'est festif. Et aussi, je vous dirais que c'est un festival de saveurs et de dégustation.
On peut goûter des choses.
Et hier, j'ai fait le trajet de tout le long, n'est-ce pas?
Oui,
ça
oui.
se déploie jusqu'à la rue Bernard. Les week-ends. La semaine, je pense que s'ils descendent un petit peu... ils montent moins haut ou ils descendent... En tout cas, ils descendent plus bas, là, c'est comme vous voulez.
Mais on parle de quelle rue?
On est sur Saint-Laurent, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, c'est ça. Vous avez tous les restaurants et différentes nationalités sur Saint-Laurent et vous descendez. C'est vraiment, là...
Ça, est-ce que c'est le genre de choses qu'on est mieux d'y aller la semaine, si on peut, ou la fin de semaine, ou ça n'a pas vraiment d'importance?
C'est sûr que, Yvan, le week-end, là, quand il fait beau, là, il y a beaucoup de monde. Premièrement, parce que c'est gratuit. Et, écoutez, c'est les voisins des Franco, là. Hein?
Oui.
Mural, c'est le voisin des Franco. Alors, c'est gratuit. On peut déambuler. En plus, c'est qu'on peut, acheter toutes sortes de choses hein, en même temps. Les commerçants en profitent pour vendre des choses à rabais, pour présenter. Bon, je pense, hier, j'ai visité un petit kiosque là, qui est en train de s'installer. C'est surtout les finissants en mode au Québec. Cégep Marie-Victorin, Collège La Salle, etc. Alors, ils présentent des choses. C'est vraiment, moi, je trouve ça festif et il y a toutes sortes de monde, toutes sortes de nationalités, des familles, des célibataires, des gens avec leurs animaux. Bref, c'est un lieu très festif. En parlant de lieu festif, et je vais m'arrêter ici avant qu'on me dise, surtout Mathieu me dise que, tu sais, j'ai encore exagéré. Alors, donc, je finis avec les Franco. Alors, les Franco qui ouvrent ce soir, n'est-ce pas, officiellement. Et bon, il y a de tout, hein, comme d'habitude, de Fouki en passant par...
Michel Rivard.
Je voulais vous le laisser, Robert Charlebois, etc., jusqu'au 17 juin.
Robert
Allez-y.
Charlebois est là-dedans?
Supposé, soirée de clôture.
Ah, d'accord.
Oui.
De mon côté, il y a plusieurs choses aussi... ça va être la finale du tournoi de Roland-Garros. On est rendu chez les hommes en demi-finale, le carré d'as. Et une des demi-finales, c'est presque la finale, c'est Carlos Alcaraz qui joue contre Novak Djokovic. Dans l'autre demi-finale, c'est quand même pas des pieds de céleri non plus. Là.
Des pieds de céleri!
Vous ne connaissiez pas ça? Là?
Non.
Alors, c'est Ruud là, qui est danois. Contre Alexander Zverev. Et du côté des femmes, c'est Mme Swiatek qui est en finale, qui est la première mondiale présentement. Et il y a eu une surprise, donc c'est une tenniswoman, Mme Michova, qui je pense qui est 22e au monde, quelque chose du genre. Et non, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a du tennis en fauteuil, en simple et en double pendant ce tournoi-là. Ça va être la Formule 1 en fin de la semaine prochaine. Le début de la saison des Alouettes de Montréal demain. Et ça va être le grand défi Pierre Lavoie qui a commencé hier. C'est le dernier, vous m'avez dit ça, je ne le savais pas du tout. C'est la dernière édition. Ils sont en train de repenser à cette activité-là pour être un peu plus écologique.
Éco-responsable, effectivement. Alors voilà, vite, vite, vite. Comme d'habitude, on est bousculé. On ne veut pas vous bousculer, mais c'est la fin. On vous remercie. Encore une fois, ça fait un plaisir de vous accompagner. Merci Yvan et merci Mathieu.
Merci Francine. J'ai pris plein de notes de choses à faire et à visiter. On se revoit, nous, la semaine prochaine à 9h30. Au Canal M à l'émission 5e édition à vendredi.
Vous pouvez rejoindre